CNU, vivre ensemble.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me and You, c'est le podcast du vivre ensemble. On y parle des liens que tissent les enfants avec leurs parents, leurs grands-parents, les professionnels de l'enfance et bien plus encore. Comment accompagner les enfants de manière respectueuse et joyeuse? Comment mieux comprendre leur développement et transformer les difficultés qu'on peut rencontrer en opportunités d'apprentissage? Ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis professeure des écoles, je suis la créatrice de Happy Kids et je suis maman de 5 enfants.
Et moi, je suis Nadège Petrel. Je suis infirmière puéricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de 2 filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité, de vous faire découvrir de nouvelles approches pour vivre avec vos enfants et de vous apporter des informations qui vous seront utiles pour avancer dans votre quotidien. Parce qu'une personne informée est une personne qui a le choix. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un coup de pouce en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant sur les réseaux sociaux.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 3e saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons allier parentalité et travail. Avoir des enfants est-il un frein à son travail? Peut-on s'épanouir professionnellement quand on devient mère ou doit-on tout arrêter? Peut-on continuer de se former et de travailler avec un bébé à la maison? Ce sont autant de questions auxquelles Mélodie Lopez, créatrice de Happy Kids, enseignante et co-créatrice de ce podcast, nous apportera des éléments de réponse. Bonjour Mélodie.
Et bonjour Nadège.
Je suis trop contente de faire cet épisode avec toi. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de te poser toutes ces questions, donc je vais me faire un plaisir de t'interviewer et de t'écouter nous partager un petit peu toutes tes astuces. Alors déjà, Mélodie, toi, tu as 5 enfants aujourd'hui, donc en 2023. Tu as ton association...
Tu dis ça au cas où on enregistre dans 2 ans et qu'il y ait plus d'enfants.
Oui. Sait-on jamais. Donc, tu as 5 enfants, tu as une association, donc ce podcast, ton travail d'enseignante. Alors, j'ai plein de questions à te poser et je pense que les auditeurs et les auditrices ont aussi envie de t'écouter nous raconter un petit peu tout ton parcours. Et je vais essayer de commencer par la question que tout le monde doit sûrement se poser. Est-ce que pour toi, les enfants sont un frein à l'épanouissement professionnel?
Alors là, tu as dit qu'on a enregistré, on est le 27 novembre 2023. Donc aujourd'hui, moi je suis en congé parental. Donc mon poste d'enseignante, il m'attend, mais je le reprendrai qu'à la fin de mon congé parental. Donc là, effectivement, j'ai mes enfants, j'ai mon association au sein de laquelle je fais des ateliers et le podcast notamment. Et donc tu me parles d'une question qui n'est pas facile, je trouve, à répondre comme ça d'un point de vue général sur l'épanouissement professionnel quand on a des enfants. Je pense que ça dépend quand même peut-être de la carrière qu'on vise. Et puis, je trouve que dans notre société, quand même, pour les femmes, il n'y a quand même pas tous les éléments qui sont mis en place pour permettre aux femmes de à la fois avoir une carrière professionnelle telle qu'elles pourraient la rêver et l'imaginer, tout en apportant une éducation, un accompagnement de leurs enfants qui serait au niveau de leurs attentes aussi. Je trouve que de trouver vraiment l'équilibre entre les deux n'est pas forcément évident et que des fois, on va devoir, à cause de cette société, privilégier l'un à l'autre. Après, si je repars vraiment d'un point de vue donc personnel, là, donc moi, pour mon épanouissement professionnel, je dirais qu'aujourd'hui, je me sens épanouie professionnellement parce que, on en parlera, j'ai fait aussi une reconversion pour me permettre de trouver ce fameux équilibre. J'étais ingénieure, je suis devenue enseignante. On pourra parler du fait que, des fois, dans l'imaginaire, le fait d'être enseignante, c'est parfait pour être parent et accompagner ses enfants. Et des fois, on élude le fait que c'est aussi challengeant parce que ça veut dire qu'on travaille beaucoup à la maison pour préparer les cours, corriger les copies, etc. Et donc, avec nos propres enfants... dont on doit s'occuper en même temps. Et des fois, c'est quand même un peu rock'n'roll, quoi, de préparer un cours de manière saucissonner, c'est-à-dire qu'on va commencer à travailler, et puis on va être interrompu pour répondre aux besoins d'un de nos enfants, et puis on va se remettre dans le travail et être interrompu à nouveau. Donc, c'est pas si évident que ça, d'arriver vraiment à trouver l'équilibre parfait entre être enseignant et être à la fois maman. Pour autant, moi, je vois que grâce à mes enfants, finalement, je vois plus ça comme une force, vraiment, vraiment. J'ai l'impression que quand je suis devenue maman, j'ai développé une capacité d'optimisation de mon temps pour devenir vraiment plus efficace et puis aussi trouver vraiment un sens à mon métier aussi, à ce que je fais au quotidien pour gagner de l'argent, parce que là, pour le coup, ce métier-là, c'est aussi un intérêt financier. Et donc, moi, je vois plutôt ça comme une force, même si ce n'est pas idyllique et qu'il y a quand même des fois où je me dis « Waouh, là, quand même, j'aimerais bien avoir juste une heure où je peux être concentrée sur une tâche professionnelle sans avoir à jongler entre mes différents rôles. »
Et je comprends totalement parce que... Bah, après, je pense qu'il y a pas mal de personnes peut-être qui nous écoutent et qui ont aussi eu à faire ce travail de façon saucissonnée, c'est-à-dire... Je pense notamment à la période où il y avait eu les confinements, où effectivement, il fallait arriver à trouver l'équilibre entre s'occuper des enfants qui étaient à la maison et pour autant assurer et continuer le travail. Et je pense que, effectivement, ce n'était pas forcément évident pour tout le monde. Mais du coup, là, tu parlais effectivement de ce changement professionnel que tu avais effectué pour ton propre aussi épanouissement pro. Est-ce que tu peux essayer de nous raconter un petit peu dans quelles conditions est-ce que justement, tu as passé ton diplôme d'enseignante, est-ce que tu avais déjà des enfants ou pas? Ou encore, je pensais à tes études pour le CAPES, que tu prépares aussi actuellement, avec 5 enfants donc. Est-ce que tu veux nous raconter tout ça?
Oui, alors j'ai passé le concours de recrutement de professeurs des écoles, c'était en 2018. Donc en 2018, j'avais 3 enfants et ma petite dernière avait 2 ans. Et donc, pour pouvoir préparer ce concours, en fait, j'avais démissionné de mon travail d'ingénieur et je me suis inscrite dans une formation en ligne. Donc, j'avais des cours du soir en ligne qui me permettaient de préparer le concours. Et donc, j'avais des devoirs à faire entre chaque session. Et là, autant te dire que donc, ma fille, je la gardais à temps plein. Elle n'allait pas à la crèche. Par contre, mes deux plus grands, ils avaient à l'époque 5 ans et 7 ans. Donc, ils étaient scolarisés. Donc, au moins sur le temps d'école, je n'avais que ma fille. Mais donc, je n'avais que ma fille de... Non, quand j'ai passé le concours, elle avait 2 ans. Mais quand je l'ai préparée, elle avait 18 mois. Et donc, forcément, je te laisse imaginer l'état de mes cahiers qui sont à la fois remplis de mes notes, mais aussi de ces coloriages, de ces gribouillages, et parce qu'elle était souvent sur mes genoux pour faire les cours avec moi. Et donc, le soir, j'essayais de temps en temps de la confier à mon mari qui s'occupait donc des 3 enfants. Mais voilà, comme je travaillais dans la maison, la porte était ouverte et donc souvent elle arrivait à pas de loup et puis hop, là, se faufiler dans la pièce pour venir travailler avec moi. Donc comme c'était pas évident, en fait, réellement, ce qui est compliqué, c'est d'être assise derrière un bureau et de faire des exercices ou de lire, tu vois, ça c'est vraiment quand même compliqué quand t'es des enfants en bas âge et que tu dois préparer un concours. Donc ce que j'avais fait beaucoup, c'est que j'avais écouté beaucoup de vidéos YouTube sur ce que je devais apprendre en fait, donc trouver un petit peu, il y a toute une partie sur l'enseignement, sur par exemple les valeurs de la République, la laïcité, comment tu l'appliques à l'école, donc tout ce travail-là, je m'étais dit ça, tu le feras en audio, donc je me mettais des écouteurs, et puis quand je faisais à manger ou quand j'avais des tâches à faire, en fait j'apprenais ça dans mes écouteurs.
En même temps.
Exactement. Et puis après, pendant les temps de sieste de ma fille, ce que je faisais, c'est que je m'enregistrais en train de lire des leçons, vraiment des notions que j'avais pas trouvées sur YouTube ou sur les podcasts. Et du coup, ensuite, quand j'avais un moment, je me remettais les écouteurs dans les oreilles et puis j'écoutais en boucle ces leçons jusqu'à ce que les notions elles soient vraiment ancrées. Pareil, dans les trajets en voiture, hop, c'était le moment aussi d'écouter ça. Donc, j'essayais vraiment d'optimiser... Et pour que, quand ma fille soit à la sieste, là, je me mettais derrière mon ordi. Mais clairement, quand ma fille était réveillée, je ne pouvais pas être derrière un ordi, quoi. Donc, je l'ai préparée comme ça. Finalement, je ne m'en suis pas trop mal sortie parce que je suis arrivée deuxième au concours, tu vois. Donc, c'est quand même possible avec un enfant en bas âge de le faire. Mais il faut développer des stratégies un peu différentes, quoi. Et c'est un peu ce que je reprends là. Là, je suis en train de préparer le CAPES de maths. Donc le CAPES de maths, le niveau qu'ils attendent, c'est maths sup, maths spé. Moi, j'ai fait maths sup, maths spé, mais il y a 17 ans. Donc autant te dire que quand je relis les intitulés des chapitres, waouh, je sais que je l'ai fait, mais j'ai encore un peu du mal à réactiver tout ça. Donc c'est vraiment ça, dans la journée, tu vois, j'écoute. Alors maintenant, je vois vraiment la différence. Tu vois, j'ai passé le concours de recrutement prof des écoles en 2018 et il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs profs. Aujourd'hui, c'est incroyable, quoi. Là, il y a des youtubeurs profs de maths, mais c'est des vrais stars. Ils sont enfin, hyper pédagogues, ils expliquent trop bien. Du coup, je les mets dans mes oreilles et puis je revois toutes les notions. Là, pour l'instant, j'ai revu les notions jusqu'à la terminale, tu vois, des matrices, des suites. Mais grâce à leurs explications, donc dans la journée, je fais ça. Et puis le soir, quand les enfants sont couchés, ben là, je fais les devoirs que je dois rendre dans le cadre de ma préparation, quoi.
Donc au final, ta méthode de travail, elle est la même.
Exactement. C'est ça.
Ok. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, tu es épanouie ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer ?
Alors, tu vois, si on prend vraiment mon métier d'enseignante, là, ce qui fait que je veux passer du niveau primaire au niveau secondaire, c'est parce qu'actuellement, j'ai un poste de remplaçante, donc ils appellent ça un poste de brigade. C'est-à-dire qu'à 8h30, on m'appelle, donc je suis dans une école de rattachement, à 8h30, on m'appelle pour me dire que ben là, aujourd'hui, je vais enseigner dans une classe de petite section, hop, et donc je vais me rendre dans l'école, enseigner à la classe de petite section, puis le lendemain, rebelote, je retourne dans mon école de rattachement, et puis on me dit que j'ai des CM1, CM2, et en fait, c'est ça tous les jours, tu vois. Et en fait, quand j'ai passé le concours de prof des écoles, moi, l'idée, c'était vraiment de créer du lien avec les élèves, de travailler avec eux sur les compétences psychosociales. Je me suis dit, le fondement déjà, pour que les enfants ils aient envie d'apprendre, c'est qu'ils se sentent bien dans leur basket, qu'ils développent la confiance en leurs compétences, tu vois, qu'ils soient un peu plus à même de nommer ce qui se passe à l'intérieur d'eux, quels sont leurs besoins. Et donc, je m'étais imaginé tout ça et j'ai pu le faire pendant 2 ans quand j'avais un poste vraiment fixe. Mais depuis que j'ai ce poste, qui est un poste définitif, donc dont j'ai du mal à changer... Eh bien, ça remet vraiment en question, tu vois, la raison pour laquelle j'avais passé le concours. Et donc, c'est ça qui m'embête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, j'aurais essayé, tu vois, dans le primaire. J'ai fait des petites choses et c'était chouette. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ce public adolescent ? Et c'est encore un peu différent, tu vois, forcément. Tu vois, par exemple, avec les élèves de maternelle, c'était facile de faire avec eux du yoga, de la respiration. Bien sûr qu'avec des élèves du secondaire, on ne va pas avoir une approche identique, tu vois. Il y aura des petits aménagements à faire pour coller à leurs propres besoins, à leurs besoins d'appartenance au groupe, etc., au jugement des autres qu'ils peuvent ressentir. Enfin, y a tout ça dans lequel il va falloir que je m'adapte. Mais... j'ai envie quand même, tu vois, de rester dans l'éducation nationale et dans le domaine public pour vraiment toucher tous les niveaux sociaux. Tu vois, quelle que soit l'appartenance de chaque élève, qui puisse bénéficier peut-être d'un enseignement un peu différent ou qui réponde à leurs besoins ou qui prenne en considération chaque individu. Et en parallèle de ça, j'ai quand même besoin de continuer à travailler dans mon association et d'accompagner les parents, d'accompagner les professionnels de l'enfance aussi, mais... ça vient toucher un autre public, en fait. Tu vois, les parents qui viennent dans mon association, ils ont envie de s'impliquer vraiment pour mieux comprendre les besoins de leurs enfants, etc. Tu vois, ils sont déjà très, très impliqués et demandeurs d'informations. Pareil pour les professionnels de l'enfance. Et du coup, je trouve ça assez complémentaire, finalement, de travailler à la fois dans l'éducation nationale, de toucher tous les niveaux sociaux, etc. Et puis, à la fois, dans mon association aussi, puis même au travers de la formation... de donner accès à ces informations qui, moi, m'ont été hyper utiles, tu vois. Et puis, je sais que, ben, pour l'instant, les gens qui bénéficient de ces ressources-là, ils sont plutôt contents d'y avoir accès. Donc, j'ai envie de continuer à ça. Et puis, en parallèle de ça, il y a le podcast qu'on fait ensemble et qui permet de nourrir aussi cette curiosité, tu vois, d'en savoir toujours plus. Enfin, il y a tellement de sujets qui touchent à la parentalité, au développement de l'enfant. Tu vois, on a parlé de sujets hyper différents comme... tout ce qui se passe au niveau maxillofacial, dans la bouche, les freins de langue et tout, l'impact que ça peut avoir sur la concentration ensuite. On a parlé des réflexes, on a parlé d'allaitement. Il y a tellement, tellement de cordes à avoir sur un seul arc pour nourrir, tu vois, les parents, les enfants et leur fournir les ressources dont ils ont besoin, que tout ça, c'est hyper complémentaire, en fait.
Oui, c'est hyper complémentaire et ça fait... beaucoup de choses différentes aussi d'un point de vue métier entre effectivement l'association, le podcast, ton boulot d'enseignante. Et vraiment, moi, je te sens mais tellement passionnée quand tu parles. Et j'ai l'impression qu'effectivement, le fait d'être maman et d'avoir à faire toutes ces formations, parce qu'après, là, on a parlé d'un petit échantillon hein, du travail, reconversion pro, etc. Mais il y a eu aussi le fait que tu deviennes toi-même formatrice pour les réflexes archaïques. Donc là aussi, ça t'a demandé de partir, parfois quelques jours, etc. Côté organisation, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner peut-être qu'il y a des futures ou des jeunes mamans qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être elles aussi faire faire une reconversion professionnelle ou suivre des formations, mais qui ne savent pas trop comment faire avec des enfants en bas âge. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur partager qui pourrait les aider justement ?
Je pense que la base, c'est déjà quand même vraiment de s'écouter soi, de voir de quoi on pense qu'on est capable et qu'est-ce qu'on pense pouvoir réussir à faire. Parce que des fois, on a des idées reçues, tu vois, comme quoi tu es une nouvelle maman, tu as un bébé et donc il faut juste que tu t'occupes de ton bébé. Et il y a des mamans qui sont super douées pour faire ça. Et franchement, j'admire vraiment, tu vois, les mamans qui sont en congé parental et qui donnent tout leur temps, leur investissement pour l'épanouissement de leur enfant et qui s'épanouissent elles-mêmes là-dedans, tu vois. Le fait d'être à fond pour l'épanouissement de leur enfant et leur éducation, ça les comble entièrement. Moi, j'ai eu du mal à faire que ça, que accompagner mes enfants, tu vois. Et j'ai cru que j'allais y arriver vraiment. Donc, pour ma troisième... Donc, mon troisième enfant, c'est la première fois que j'ai pris un congé parental. Et en me disant, je vais comme ça vraiment m'occuper d'elle à 200%, aller chercher les enfants à l'école, etc. Et donc, je l'ai fait 2 mois. Et j'ai trouvé ça, waouh, quand même hyper dur, en fait, tu vois, de juste m'occuper d'eux. J'avais besoin aussi de partager avec d'autres parents et d'échanger et d'en apprendre plus et de me former. Et donc, c'est là où j'ai créé mon association et puis après où j'ai fini par créer des ateliers pour accompagner les parents et les enfants. Mais pourtant, quand ma fille, elle avait 1 mois et que j'ai eu envie de me former au yoga pour les enfants, les gens autour de moi, ils me disaient « Ah, mais là, ta fille, elle a 1 mois, de toute façon, il faut que tu t'occupes d'elle, tu ne vas pas partir en formation avec ta fille. » Enfin, c'est juste pas possible, tu vois. Et il y avait un peu ces freins qu'on pouvait penser, me mettre en me disant tout ça. Mais moi, en fait, moi, je savais au fond de moi que ce serait OK, que j'allais la prendre en portage, que quand elle allait avoir besoin... Enfin, on était tout le temps collés l'une à l'autre, que je savais que quand elle avait besoin de téter, etc., lui changer la couche... Je l'avais contre moi, tu vois. Mais je pouvais l'avoir contre moi et en même temps avoir une partie de mon cerveau disponible pour apprendre des choses. Et donc, je me suis dit, OK, on me dit que c'est pas possible, mais moi, je sens que c'est possible. Je sens que je suis prête à le faire, tu vois. Et parce que je me suis écoutée, du coup, j'ai suivi cette formation de yoga. Et en fait, ça s'est super bien passé. Alors oui, forcément, j'ai pas suivi la formation comme toutes les autres participantes. Il y a des fois où je suis sortie, où Maëline, elle avait besoin que je bouge davantage. Donc, j'allais dehors en portage. Et donc, il y a des moments où j'ai raté des petits morceaux, tu vois, de la formation. C'est sûr que c'était différent que si j'avais fait cette formation-là toute seule. Pareil avec Nao, donc mon cinquième, je suis montée à Caen. Donc, j'habite vers Marseille. Je suis montée à Caen en TGV avec lui. Franchement, c'est sûr, c'était rock'n'roll, quoi. J'étais dans le TGV, il était petit, il avait 1 mois. J'étais debout, en fait, tout le temps du trajet. Je l'avais en portage et puis... J'ai pris le métro, j'ai pris le TER, mais c'était OK pour moi, en fait. Limite, même, c'était même plus facile que quand j'étais à la maison, tu vois, avec les 5 enfants, etc. Là, j'avais finalement que Nao. Après, j'allais en formation, je recevais de la formation, et en fait, ça venait nourrir mon cerveau, ça venait nourrir ma curiosité, et du coup, je me sentais bien, tu vois. Je pense que c'est vraiment... Chaque maman, elle sait, au fond d'elle, ce qu'elle est capable de faire, tu vois. Mais des fois, on a des freins de ce que nous dit la société, de ce que nous dit l'entourage. Et on n'ose pas aussi, on se dit, ben, c'est un petit bébé, voilà, il faut s'en occuper, mais si vraiment on est motivé, si on a envie, si on sent qu'on a ce besoin-là aussi, et ben, d'en apprendre plus, ou, toi, ou de changer de métier, et de se dire, oh là, mais il va falloir que je me remette dans les études, enfin, moi, je me remets dans les maths, là, ça fait 17 ans, ben, j'ai réfléchi, tu vois, avant de me dire, est-ce que vraiment tu vas refaire des matrices et compagnie, là ? Ben, en fait, oui, tu vois, une fois que j'ai passé le cap, je m'éclate, tu vois, quand je me remets dans les matrices. Mais encore une fois, ce qui est difficile, c'est que je m'éclate, mais qu'à un moment, je suis dedans, et puis bim, hop, je suis interrompue, et puis là, je vais aller répondre aux besoins de mes enfants, tu vois. Donc, il faut arriver à trouver quand même l'équilibre. Est-ce que, peut-être qu'une maman qui veut changer de métier, elle peut avoir aussi besoin de temps pour elle, donc pourquoi pas faire garder son bébé quelques jours dans la semaine, est-ce que ça l'aiderait, ou quelques heures, tu vois, passer le relais avec le papa, s'arranger avec le papa, ben, est-ce qu'il n'y a pas un jour où il peut finir lui plus tôt et s'occuper des enfants pour qu'elle puisse être à fond pendant une petite période de 2-3 heures au moins dans sa reconversion professionnelle. Mais voilà, en fait, je pense que quand on devient maman, on a vraiment des ressources qui étaient insoupçonnées jusque-là, qui rejaillissent et dont on peut se saisir, quoi.
Je te rejoins totalement là-dessus, enfin, sur ces ressources. Mais je pense que c'est vrai, mais quel que soit le domaine, même pas que professionnel, c'est-à-dire qu'il y a même des fois où... ou des situations où je repense à certaines choses où je me dis, mais là, ça, je pense que je l'aurais jamais fait. Et le fait qu'il y ait en fait les filles pas loin et te dire, mais attends, mais j'ai envie de leur prouver que c'est possible, j'ai envie de leur prouver qu'elles peuvent devenir qui elles veulent, qu'elles peuvent faire donc là le métier qu'elles veulent. Parce que du coup, moi, j'ai que deux filles, mais c'est vraiment. Ouais, ça te pousse à aller au-delà de là où tu serais allée si tu n'avais pas eu des enfants. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et je trouve ça vraiment beau de t'écouter parler aussi et de voir qu'effectivement, au final, si je comprends bien, c'est tout ton enthousiasme d'apprendre, comme dirait André Stern, qui a pris le dessus, en fait, sur tous les petits obstacles qu'il aurait pu y avoir à côté. Effectivement, prendre le train, enfin faire un long trajet de train avec un bébé, ou prendre le RER, le métro, etc. Comment est-ce qu'on va faire, les couches, les tétés, le machin. Mais au final, ça, si j'ai bien compris, c'est arrivé au second plan, parce que tu souris quand t'en parles. Alors, les auditeurs et les auditrices, ils te voient pas, mais moi, je te vois sourire, tu te sens pas dans ta voix, mais on sent que vraiment, tu étais... hyper heureuse, hyper motivée, hyper enthousiaste pour aller suivre ces formations et que du coup c'est ça qui primait, qui a pris le dessus et qui t'a mis en joie, et ce qui fait que tous les petits à côté qui auraient pu, peut-être dans le quotidien comme tu le disais, en restant à la maison, d'avoir à penser, à faire ci, à faire ça, à s'adapter, peut-être qu'à la maison c'est ça qui aurait pris le dessus, donc le côté un peu plus difficile, routinier, de changer les couches, etc. Et au final là c'est passé au second plan. Et la priorité, c'était allez, viens Nao, on va aller s'éclater, maman elle va aller apprendre plein de choses et on va revenir encore plus nourrie de plein d'informations. Ça va être trop bien, on va pouvoir appliquer plein de nouvelles choses à la maison. Et du coup, ça fait du bien de t'écouter nous transmettre tout ça. Et est-ce que du coup tu dirais que c'est le fait de devenir mère qui t'a donné envie de faire cette reconversion professionnelle ou pas? Parce que tu vois, moi, il y a plein de familles, enfin, surtout des mamans, que je rencontre en atelier massage, en atelier portage bébé, etc. Et souvent, en fait, le fait alors d'avoir le premier, le deuxième enfant, etc., eh bien, j'ai plein de femmes qui ont envie de changer de métier ou qui sont en train de changer de métier, mais depuis qu'elles sont mamans. Est-ce que toi, c'est ça aussi qui a été ton déclic ou c'est autre chose ?
Alors, moi, je suis devenue maman en 2011 et je suis devenue prof en 2018. Donc, tu vois, c'était pas immédiat le changement. Et puis, en fait, en 2011, donc, j'étais ingénieure, mais on s'était arrangé quand même avec mon mari pour que ce soit lui qui dépose, ben, à l'époque, c'était Swan à la crèche le matin. Donc, il est allé à la crèche quand il avait 6 mois. Et moi, j'allais le chercher à 5 heures. Donc, moi, j'allais très tôt le matin pour pouvoir partir le plus tôt possible et le récupérer. Et en fait, moi, c'était vraiment le truc qui me pesait, c'était de faire en sorte que Sohan, il n'ait pas à vivre des grosses journées, tu vois, gardées par quelqu'un d'autre. Mmh. Parce que voilà, c'était frustrant le fait de que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de lui, mais en même temps j'avais besoin, tu vois, j'étais contente de retourner travailler et j'aimais vraiment mon métier, l'équipe dans laquelle je travaillais, et donc finalement on avait un équilibre qui était plutôt bien, et puis Sohan il avait l'air de plutôt bien vivre la situation, donc on a continué comme ça. Après, quand j'étais maman pour la deuxième fois, là Sohan est rentré à l'école, et là par contre j'avais hyper envie d'être avec lui le mercredi. Pour pouvoir passer, tu vois, plus de temps avec lui, parce que je me disais, waouh, dans la semaine, sinon, on se voit pas. Et ça me contrariait. Donc là, j'ai baissé ma quotité de travail à 80% pour avoir mes mercredis. Et puis, petit à petit, je me suis dit, OK, donc là, on a un équilibre qui est pas trop mal. Mais ça commençait à me titiller le fait qu'on passe pas assez de temps ensemble, tu vois. On était quatre. Et là, j'ai commencé en fait à me former plus autour du maternage proximal. Tu vois, j'ai fait des formations de portage, de massage bébé, en me disant, tiens, j'aimerais bien proposer des outils aux parents, et en même temps, je vois que ça fait du bien à mes enfants, tu vois. Et donc là, ça a commencé un petit peu à changer à ce moment-là. Et finalement, j'ai proposé ces ateliers en parallèle de mon métier d'ingénieur. Et puis là, quand j'ai eu ma fille, donc troisième enfant. Là, pour le coup, j'ai vraiment eu envie de passer à autre chose, tu vois, et de passer plus de temps avec mes enfants et d'être plus impliquée dans leur développement et dans leur éducation, leur épanouissement. Et c'est vraiment là où il y a un réel changement qui s'est opéré, où je me suis dit, OK, là, je vais changer de métier. Je vais faire quelque chose qui a du sens pour moi. Et je me suis surtout reconnectée au métier que je voulais faire, moi, quand j'étais petite, et que j'avais pas fait parce que j'étais bonne élève à l'école. Alors du coup, mes profs m'avaient dit, fais maths sup, maths spé. Donc j'ai fait maths sup, maths spé. Après, j'avais dit, mais je retournerai à la fac après parce que j'ai envie d'être prof de physique chimie. On m'avait dit, vas-y, t'es maths sup, maths spé, tente les concours d'école d'ingé. J'ai tenté les concours d'école d'ingé, j'ai eu mon école d'ingé. On m'a dit, tu vois, t'en as une école d'ingé, profites-en, allez, fais ton école d'ingé, puis de toute façon, prof, tu pourras toujours le faire plus tard. Et donc, j'ai suivi sagement ce qu'on m'a dit. Et puis là, tu vois, quand je suis arrivée à 30 ans, je me suis dit, OK, c'était chouette, ce métier d'ingénieur, etc. C'est cool. Mais au fait, les gars, vous savez quoi? Moi, je vais être prof, en fait, depuis que je suis petite. Donc, je vais le faire là, maintenant. J'ai 30 ans. Maintenant, c'est moi qui décide. On me dit plus ce que je veux faire. Et puis, en même temps, le fait d'être prof, ça me permettra d'être avec mes enfants davantage. Donc, pendant les vacances scolaires. À l'époque, je réalisais, je pense pas trop que... Ouais, voilà, que prof, c'est chouette quand t'as des enfants, mais que c'est quand même rock'n'roll pour bosser à côté quand t'as les enfants, quoi. Mais au final, je suis plutôt contente de cet équilibre, quoi.
Et du coup, donc là, tout à l'heure, tu nous disais que de temps en temps, donc, tu te mettais les cours en audio dans les oreilles pendant que tu cuisinais. Tu nous disais aussi que, quand tu travaillais, il y avait la porte ouverte et que de temps en temps, ta fille... Hop, elle est arrivée et puis venait te voir. Tu nous as parlé effectivement du travail fait de façon, comme tu disais, saucissonnée. Comment est-ce qu'on peut justement arriver, tu vois, à concilier vie de famille, vie de pro, surtout voilà, quand on travaille depuis la maison? Est-ce que toi, tu as quand même des espaces dédiés à ton travail à la maison? Est-ce que c'est plus une organisation en termes de jour, nuit, enfin j'ai n'importe quoi, le jour c'est plus avec les enfants et la nuit tu grattes un peu sur le sommeil pour travailler, ou malgré tout il y a quand même, je sais pas, une pièce dédiée chez toi et vous vous êtes mis d'accord, j'ai n'importe quoi, avec ton mari pour que de telle heure à telle heure, hop, la porte là elle est fermée, ou est-ce que la porte est toujours ouverte, enfin comment est-ce que ça se passe pour arriver vraiment à concilier les deux à partir du moment où justement ce travail on le fait depuis la maison?
Alors, je ne sais pas si on peut dire que j'ai un espace dédié, j'ai un bureau, donc une pièce où j'ai une chaise et une table, mais je suis en train de regarder mon bureau. Je pense qu'il y a autant de coloriage, de Playmobil, de Lego que de livres de maths, tu vois. Donc, dédié, c'est pas forcément le mot. Après, ce que j'essaie de faire, tu vois, là comme j'ai quand même des grands là, qui ont 12, 9... 7 ans, même 3 ans, eux, ils comprennent bien quand je leur dis, ben là, tu vois, il va falloir que je fasse mes exercices de maths parce que je dois rendre un devoir pour la semaine prochaine et je suis un peu à la bourre. eux, ils comprennent. Tu vois, ils vont me laisser réviser. Voilà, peut-être de temps en temps, il y a mon 3 ans qui va venir me demander est-ce que tu peux m'imprimer un coloriage pendant que tu révises ? Ok. Donc, on fait ça et ils ont plutôt bien compris. Ce qui est plus compliqué, c'est avec mon petit de 18 mois, tu vois. Alors, quand il y a mon mari, on s'arrange. Il y a des moments où je dis, là, tu vois, ce serait chouette quand même que j'avance sur mon devoir et donc j'aurais besoin d'une heure. Et donc, il va faire en sorte de jouer avec lui pendant que je travaille. Mais ouais, après, j'ai jamais... Enfin, actuellement, là, jusqu'à présent, j'ai jamais eu une journée où j'ai pu faire juste mes révisions, tu vois, c'est quand même un peu idyllique de penser ça. Par contre, le soir, donc quand ils dorment, là, quand j'ai un peu d'énergie, si je me suis pas endormie avec eux, je vais faire quelques exercices, mais sinon je me suis plus mise en mode, je vais lire, tu vois, des leçons et faire en sorte que ça s'imprègne dans ma tête. Ou alors, si je m'allonge avec mon 3 ans, quand il est en train de s'endormir, je vais mettre les écouteurs et là, je vais m'écouter les leçons aussi pour prendre de l'avance pour après, quand ils dormiront, être plus efficace pour résoudre un exercice. Je vais faire ça. Mais oui, après, c'est un équilibre aussi. Il y a des jours où, tu vois, vraiment, ça marche super bien. J'ai eu 2 heures d'affilée où j'ai pu faire des choses. Et puis, le lendemain, j'ai l'impression d'avoir mis en place la même stratégie et en fait, ça se passe pas du tout pareil, quoi. Il peut y avoir une dispute qui éclate entre 2 enfants et donc si j'ai besoin d'intervenir, ça va prendre le dessus, quoi. Je vais aller voir ce qui se passe, on va résoudre le truc et puis je continuerai plus tard, quoi.
Bon, donc du coup, il y a des choses qu'on peut mettre en place, si j'ai bien compris. Après, il faut pas forcément se mettre dans l'idée qu'on va bosser pendant 8 heures d'affilée comme on ferait quand on est dans un bureau, à l'extérieur, etc. Ça demande quand même pas mal d'adaptation. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'à partir du moment où on a la motivation, où on arrive en fait à mettre plein de petites choses en place pour avoir ces temps de travail efficaces, malgré tout, et que voilà, ça reste possible, et c'est quand même ça qui est super important. Et un dernier point que j'aurais aimé aborder, c'était, est-ce que justement toi tu as des conseils pour maintenir un bon équilibre, plus cette fois-ci côté santé mentale, côté motivation, côté épanouissement perso, parce que je me dis que voilà, tu vois, quand je t'entends parler, effectivement ça demande de mettre plein de stratégies en place, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de savoir s'adapter, réadapter. Je suppose, si jamais il y a des enfants qui sont malades, si jamais... Enfin, voilà, je me dis, il peut y avoir plein de situations qu'on n'a pas forcément abordées aujourd'hui, mais qui vont venir mettre un petit peu de piment dans le quotidien et donc peut-être dans la formation qu'on est en train de suivre, dans la reconversion professionnelle qu'on est en train de faire. Est-ce que toi, tu as des petits tips, des petites choses, des petites astuces que les personnes pourraient mettre en place pour justement pas flancher, tu vois, toujours garder la motivation. Et puis, tu vois, t'es à la maison, t'es tout le temps à la maison. Comment est-ce qu'on fait pour se sentir bien aussi dans sa tête et maintenir le cap?
Oui, en fait, il faut vraiment avoir conscience qu'on a chacune des seuils de tolérance plus ou moins élevés et que ça peut être vite frustrant, en fait, de se fixer un objectif, de savoir comment tu peux l'atteindre, mais qu'en fait, il y a des paramètres externes qui viennent bouleverser justement ce petit chemin qui t'amène jusqu'à ton objectif. Donc, d'avoir en tête que si, effectivement, de travailler de la maison avec des enfants dans la maison, c'est s'exposer à être interrompu régulièrement, à devoir répondre à leurs besoins de temps en temps. Et si pour nous, c'est trop difficile de faire ça, je pense qu'il vaut mieux se dire... Par exemple, je vais me fixer des jours où quelqu'un va garder mon enfant, où je vais aller travailler à l'extérieur de la maison, par exemple dans une bibliothèque, ou je sais pas, ou dans un café, ou dans un endroit où vraiment je sais que de telle heure à telle heure, je suis en mode productivité maximum et je fais tout ce que j'ai prévu, plutôt que de se dire, coûte que coûte, aujourd'hui, mon objectif, ça va être d'apprendre 3 leçons, tu vois. Parce que là, tu peux arriver vite à la fin de la journée. En fait, tu as appris un quart de leçon au lieu de 3. Et là, même au niveau motivation et tout, tu vois, c'est compliqué, tu peux te décourager, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment déjà faire le point au début. Ok, qu'est-ce que je suis capable, moi, en fait, de tolérer ? Mon seuil de tolérance, il est où ? Et tu vois, même des fois, moi, je vois, si vraiment j'ai encaissé plusieurs frustrations dans la semaine, et que je sens que ben, mon niveau de patience, il est en train de baisser, je préfère dire à mon mari, ben, tu vois, ce serait chouette que la semaine prochaine, on essaye de trouver une organisation, par exemple, dans le week-end. Il y a une matinée où, je sais pas, tu sors avec les enfants, vous allez faire une balade ou quoi, mais où je suis toute seule dans la maison pour atteindre un petit objectif que je me suis fixé. Et donc, moi, je sais qu'à ce moment-là, je serai libre d'avancer comme j'en ai envie et je vais bien utiliser ce moment-là pour travailler et pas pour faire plein d'autres trucs, tu vois. Parce que des fois, quand les enfants, ils sont pas à la maison, tu dis, ah, bah, c'est le moment de, je sais pas, tu vas faire des trucs genre des tâches domestiques ou quoi. Non, 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 vraiment, ce temps-là, je le consacre à moi, au travail que j'ai besoin de faire. Et puis surtout aussi nourrir un truc, enfin, nous-mêmes, quoi, notre bien-être, qu'est-ce qui nous fait du bien. Donc, par exemple, moi, tous les vendredis soirs, je vais faire du hip-hop. J'ai une heure où je fais du hip-hop et c'est mon moment où j'ai mon corps pour moi toute seule, où je peux bouger, c'est chouette. Enfin, tu vois, ça me fait du bien. Rien que le petit trajet qui dure 5 minutes, hein, de la maison jusqu'au hip-hop, où j'ai personne, tu vois, attaché dans la voiture, à qui je vais devoir parler ou dire « Ah oui, on est bientôt arrivé », etc. Rien que ce petit moment calme, en fait, où hop là, je suis tranquille pour aller au hip-hop, ça me fait du bien. Faire des petites pauses dans la journée, alors bouger, tu vois, aller dehors. Des fois, quand on est à l'intérieur, on a vraiment envie d'être hyper productive et du coup, on reste coûte que coûte à l'intérieur. En fait, des fois, il vaut mieux, hop, tout laisser en plan, aller dehors, aller se balader 10 minutes, je sais pas, sentir soit le froid sur la peau ou le soleil si on a de la chance et qu'il fait beau. Mais voilà, faire un truc à l'extérieur, ça fout, ça remplit. Et puis hop, notre niveau de motivation et de patience, il remonte. Et on est prête pour la suite, quoi. Mais il y a vraiment, et c'est un petit équilibre à trouver qui est propre à chacune, là, pour le coup.
Et là, quand je t'écoutais parler, j'ai une phrase que tu as dite qui ne m'a pas lâchée. Quand tu as parlé du hip-hop, où tu y allais une heure par semaine, et tu as dit « c'est le moment où j'ai mon corps rien qu'à moi ». Et du coup, je me disais « ben oui, en fait, c'est ça ». C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte… Surtout quand on a des enfants en bas âge, des bébés, des bambins, où bah, ils ont beaucoup besoin d'être contre nous, d'être portés, d'être... où je pense aussi à certains enfants, après quand ils grandissent un peu, ils viennent, ils s'accrochent à nos jambes, ou ils viennent tirer le pantalon ou la jupe, enfin bref, pour dire hey, « maman, maman, maman !» Et je me dis, là, oui, tu as raison, c'est ça, c'est « j'ai mon corps, rien qu'à moi et, ». Et je te remercie d'avoir dit cette phrase, parce que... Vraiment, ça m'a percutée quand tu l'as dit et je me suis dit, bah oui, quand on est mère, c'est important aussi d'avoir ces moments-là. Mmh. C'est trop beau. Et est-ce que du coup, il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui?
Bah justement, tu vois, s'écouter, c'est vraiment ça, voir on a plein de capacités. Des fois on dit, voilà, quand on devient maman, quand on accouche, on grille nos neurones, tu sais, on a genre le cerveau qui flambe et nos capacités, etc. Alors oui, on en perd quelques-unes, tu vois, c'est sûr qu'en plus avec le manque de sommeil, il y a des fois en termes de lucidité, les premiers mois où c'est pas trop ça. Mais je pense qu'on développe plus de compétences. Enfin, vraiment, je me dis, sur un CV, juste si tu dis que t'es maman, ça devrait faire, genre tu remontes sur la pile déjà de ouf, parce que tout ce que t'es capable de gérer quand même quand t'es une maman, en termes de logistique, d'organisation, de résolution de conflits, de planification, tu vois, enfin, tu développes des compétences incroyable, insoupçonné. Je pense que quand tu es enceinte, jamais de la vie, tu te doutes que tu vas développer de telles compétences. Et donc, on est hyper capable, tu vois, même avec des enfants, de faire ce qui nous plaît et voilà, de se faire confiance aussi sur le fait que si on sent que c'est OK pour nous, alors il faut y aller, il faut foncer, se donner les moyens et trouver un équilibre après avec son conjoint, son partenaire, le deuxième parent, de voir comment organiser ça. Mais... Et je pense qu'il faut sortir de l'idée que les enfants, c'est forcément des freins, tu vois. Je pense qu'il y a des moments où c'est sûr, c'est indéniable, c'est plus compliqué, tu vois, de faire des choses avec des enfants. Mais c'est pas parce que c'est plus compliqué que c'est impossible. Et au contraire, ça peut même être vraiment des moteurs, tu vois, nous pousser à nous dépasser aussi. Pas seulement pour leur prouver quelque chose, tu vois, mais parce que, voilà, pour donner du sens à notre vie, quoi. Vraiment, je trouve qu'ils peuvent être très forts pour ça, les enfants.
Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Mélo, parce que je trouve ça beau ce que tu dis, parce que je trouve ça important aussi de pouvoir voir les enfants autrement et se dire que... Enfin, en tout cas, mettre un coup de pied aux fesses aussi à cette idée reçue qui aurait tendance... à nous amener à dire « Ah bah oui, mais avec les enfants, c'est plus compliqué, ou mais avec des enfants, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. » Et au final, quand on t'entend parler, quand on écoute ton témoignage, on comprend que, en fait, si, c'est possible, et que c'est pas du tout un frein, et que ça demande, par contre, une organisation qui va être complètement différente, une organisation à la fois personnelle, mais aussi familiale, puisque bah, voilà, quand il y a un deuxième parent, c'est bien de le faire entrer dans l'équation, de, comme tu parlais aussi, de ne pas hésiter à avoir des ressources comme bah, peut-être un mode de garde aussi pour les enfants. En t'écoutant aussi parler, je pensais aussi aux jeunes filles au père. Il y a des familles qui ont des jeunes filles au père à la maison, et ça peut être aussi une ressource supplémentaire. Enfin voilà, donc des ressources, s'il y en a. Après, effectivement, si j'ai bien compris, il faut trouver celles qui nous correspondent. Et voir aussi nos capacités à mettre tout ça en place. Donc je pense que ça se réfléchit bien en amont, et après ça roule, et c'est possible, et merci de nous montrer que c'est possible, et avec 5 enfants.
Et je pense aussi à un truc, tu vois, quand on parlait des différents modes d'accueil ou quoi pour les enfants, de se donner des coups de main entre mamans aussi, tu vois, de dire, ben, est-ce qu'on se fait genre, il y a un jour où c'est toi qui le gardes 2 heures, et puis un jour c'est moi, puis tu gardes l'enfant de l'autre maman éventuellement, puis les enfants ils sont contents, ils jouent ensemble, toi t'es avec eux pendant 2 heures, mais le lendemain, ben, c'est ton enfant que tu fais garder, et toi t'as 2 heures pour faire un truc, soit pour prendre soin de toi, ça c'est chouette, soit pour avancer, ouais, sur ta reconversion professionnelle ou quoi, mais ouais, et là pour le coup ça nécessite pas de moyens financiers, c'est juste une organisation qu'on peut faire entre parents, quoi.
Exactement. Bon, mais top, merci beaucoup Mélo, et j'espère merci, que ça aura pu donner plein de pistes.
C'est la fin de cet épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir au travers de vos notes sur les différentes plateformes d'écoute et en interagissant sur les réseaux sociaux. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.